Vous êtes sur RTL.
RTL.
Oh là là, c'est extraordinaire! Elle est contente.
Le journal inattendu.
Depuis tout petite, je regardais Roland Garros à la télé avec mon père. Et on s'est dit, bah peut-être, j'espère, un jour, je vais jouer ce tournoi.
Oh là là, fabuleux!
Marie Pierce qui a battu Martina Hingis ici. 6-4, 5-7.
Troisième balle de match.
12h30, 13h30.
S'il vous plaît.
C'est fini!
C'est terminé, bravo Marie Pierce, elle a gagné, elle l'a mérité.
1h52. 6-2.
En levant les bras au ciel.
C'est mon rêve. Aujourd'hui qui est devenue réalité et je pense que je vais jamais oublier ce jour aujourd'hui. C'était vraiment fabuleux. Je veux vous remercier tous. Merci.
Championne, Marie Pierce est dans le journal inattendu avec Ophélie Meunier sur RTL.
Une victoire à Roland-Garros qui date d'il y a exactement 20 ans. Et ça met toujours autant les poils. Hein. Bonjour Marie Pierce.
Bonjour.
Bienvenue dans le journal inattendu J-1 avant le début d'un Roland-Garros pas comme les autres. C'est atypique d'en parler maintenant. On a l'habitude de vivre le plus grand rendez-vous tennistique français fin mai, début juin. Mais l'épidémie mondiale bouleverse tout. Des stades moins remplis. Le tournoi va-t-il pouvoir aller jusqu'au bout? Comment les sportifs professionnels vivent-ils cette période? Vous nous donnerez votre avis. Marie Pierce, je ne sais pas si vous vous doutiez en 2000 que vous garderiez le titre de vainqueur française de Roland-Garros. Au moins 20 ans. On se dit que vous avez le temps de bien en profiter. Alors vous nous direz ce qu'il faut à nos joueurs français et joueuses françaises pour enfin à nouveau soulever cette fameuse coupe. Dans ce journal inattendu, on vous découvrira un peu plus à travers votre regard sur l'actualité, vos goûts musicaux et cinématographiques. On recevra votre invité et on vous a aussi préparé une petite surprise. Mais avant cela, c'est vous qui prenez la main pour vous tirer le portrait. Alors Marie Pierce, qui êtes-vous?
Alors, je suis née en 1975 à Montréal. Ma mère est française, mon père était américain. J'ai grandi aux USA, en Floride, et c'est là-bas que j'ai découvert le tennis. J'ai 10 ans quand je frappe mes premiers balles, et très vite, les bons résultats arrivent. À 14 ans, je passe pro, et quelques années plus tard, en 1994, je suis en finale de Roland-Garros. J'enchaîne avec une victoire à l'Open de l'Australie et je rentre directement dans le top 3 mondial. La suite est aussi belle puisqu'avec l'équipe de France sous le capitanat de Yannick Noah, nous remportons la Fed Cup en 97. J'ai vraiment eu un rêve dans le tennis, c'était de gagner Roland-Garros. Et avec l'aide du Seigneur, je suis arrivée il y a 20 ans. J'ai été élevée dans la religion catholique, mais en mars 2000, ma foi a changé. Je suis née nouveau, je suis devenue chrétienne. Elle s'approfondit et c'est là que ma vie a pris un autre sens. Mon cœur a été guéri de toutes mes blessures du passé et j'ai alors pu pardonner à mon père. Dieu m'a donné le talent pour jouer au tennis et je voulais le faire de mon mieux pour lui. Je suis donc venue à Roland-Garros cette année-là avec un autre esprit, une autre mentalité et cela m'a enlevé beaucoup de pression et de stress. J'ai gagné en simple mais aussi en double avec Martina Hingis, un moment unique et tellement fort. Aujourd'hui, je suis toujours investie dans le tennis auprès des jeunes joueurs et joueuses. Je souhaite transmettre ma passion et cette mentalité de championne qui m'a toujours habitée. J'ai aussi du temps pour des projets plus personnels et j'espère pouvoir m'engager pour des causes importantes, notamment en Afrique.
Tennis, Roland-Garros, États-Unis, spiritualité, on va parler de tout ça avec vous dans votre journal inattendu. Mais d'abord, à la une de l'actualité, le principal suspect assume son acte après l'attaque qui a fait 2 blessés hier devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Il dit qu'il n'a pas supporté la republication des caricatures. Nous serons en direct de Pantin avec notre envoyé spécial où a eu lieu une perquisition dans l'un des domiciles présumés du principal suspect. Vous entendrez également le témoignage bouleversant d'un patron d'un bar qui se situe juste à côté du lieu de l'agression. L'actualité en France est aussi l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Elle continue de progresser. Alors de nouvelles mesures sont tombées ce week-end, mais peuvent parfois prêter à confusion. On remet tout à plat, toutes ces directives dans un instant. Il y a un an, jour pour jour, l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen faisait de gros dégâts environnementaux dans toute la région. Aujourd'hui, l'enquête patine. Un collectif de victimes manifeste cet après-midi à Rouen. La météo, un temps toujours aussi frais et agité aujourd'hui en Anthony Kazmarek.
Oui, oulala, l'automne est là et bien là, avec deux zones de pluie sur le pays cet après-midi. La première entre les Hauts-de-France et le Grand Est. Cette zone de pluie va gagner l'Île-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté ce soir. Attention aux pluies soutenues et orageuses sur le Nord-Pas-de-Calais. Et puis une autre zone de pluie aborde le pays par le Sud-Ouest. Elle va concerner les régions allant de la Vendée au pied des Pyrénées, avec là aussi de forts cumuls possibles sur deux départements placés par Météo France en vigilance orange, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Prudence dans ces départements. Et puis entre ces deux zones, on peut espérer quelques timides éclaircies au sein, là encore, de quelques averses orageuses pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, où il neigera d'ailleurs sur les sommets des Alpes au-dessus de 1200 mètres, et puis peut-être un peu plus de soleil pour la Bretagne et la Normandie. Soleil aussi, mais du vent sur la Provence et la Côte d'Azur. Quant aux températures, elles sont toujours aussi fraîches pour la saison, digne plutôt d'un début novembre, avec 10 degrés à Metz au meilleur de la journée, 12 à Grenoble et Strasbourg, 14 à Lille et Brest, 15 à peine à Paris, où il pleuvra demain pour le début de Roland-Garros, et 19 degrés à Marseille.
Merci Anthony. Marie, vous avez bien tout retenu parce qu'à 13h, c'est vous qui faites la météo.
Oui,
et
c'est
Anthony,
bon.
On vous retrouve ce soir.
Le journal inattendu sur RTL.
7 personnes sont toujours en garde à vue après l'attaque au hachoir qui a eu lieu hier à Paris devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. D'après le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il s'agit manifestement d'un acte terroriste. Le principal suspect a été arrêté, un homme de 18 ans, originaire du Pakistan. Et il assume son acte. Il dit qu'il n'a pas supporté les republications des caricatures de Mahomet. Des perquisitions ont eu lieu dans 2 potentiels domiciles de l'assaillant. L'un à Cergy, l'autre à Pantin, où l'on retrouve notre envoyé spécial, Julien Faux. Bonjour Julien.
Bonjour à tous.
Où en est l'enquête ce midi? Qui sont précisément les personnes actuellement en garde à vue?
Eh bien, ce sont des colocataires, des hommes qui vivaient avec l'auteur présumé dans cet appartement de Pantin devant lequel nous nous trouvons. Et puis il y a un ancien colocataire interpellé cette nuit à Cergy dans le Val d'Oise où vivait auparavant le principal suspect. Cet homme donc interrogé par la police sous l'autorité du parquet national antiterroriste. L'auteur présumé a-t-il agi seul? L'a-t-on aidé notamment à se procurer une arme? Quoi qu'il en soit, l'homme qui se trouvait à proximité du lieu de l'attaque, le deuxième suspect, a été mis hors de cause. Sa garde à vue a été levée cette nuit.
Que sait-on sur le profil de l'assaillant? Était-il connu des services de police?
Il déclare avoir 18 ans, arrivé en France en 2018 avec un acte de naissance indiquant qu'il vient d'Islamabad au Pakistan. Un homme discret, décrit Mounir, qui vit dans le même immeuble et que j'ai rencontré il y a quelques minutes.
Oui, moi personnellement, je l'ai écrasé plusieurs fois. Il a l'air gentil. Dans l'appartement, ils sont plutôt nombreux, 7 voire 8 personnes. Ils ont l'air sympas, plutôt discrets. Après, franchement, je comprends pas s'ils arrivent vraiment à faire ça. Moi, je les connais, ça fait 2 ans. Bonjour, bonsoir. On n'a jamais eu de problème avec eux. On a vu hier les forces de l'ordre débarquer dans l'immeuble, une dizaine, une quinzaine avec force, ils ont défoncé la porte cagoulé, faut que je sorte de cet immeuble-là. Hier, on n'a pas dormi toute la nuit, on est sous le choc.
S'était-il radicalisé? Il n'était connu des services que pour port d'armes, après avoir été interpellé avec un tournevis. Et pourtant, Ophélie, ce matin, devant les enquêteurs, le principal suspect de l'attaque au hachoir a déclaré assumer son acte, qu'il situe dans le contexte de la republication des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo.
Merci Julien Fautra, envoyé spécial d'RTL. Cette attaque a fait 2 blessés, ce sont 2 journalistes. Ce quartier dans le 11e arrondissement de Paris, marqué par les événements douloureux de 2015, est sous le choc. Comme le patron du bar Le Poulailler, situé juste à côté du lieu du drame, il voyait régulièrement les victimes.
C'est des personnes qu'on voit souvent dans une boîte de production et dont la fille fêtait son anniversaire hier. Donc c'est ça qui nous a fait aussi beaucoup de peine. Donc ça nous rappelle des souvenirs assez tristes et douloureux. Ils sont des amis qu'on connaît bien. Voilà, je leur ai envoyé des textos. Après, quand ça allait bien, je leur ai expliqué qu'on leur faisait des bisous, mais c'est l'incompréhension, quoi. Charlie Hebdo, ils sont plus là depuis 5 ans. Donc un peu dégoûté, un peu triste.
Propos recueillis par Valentin Boisset pour RTL. Les 2 blessés sont dans un état d'urgence absolue, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. L'épidémie de Covid-19 continue de progresser dans le pays. Nouveau record de contamination ces dernières 24 heures, près de 16 000. Pour tenter d'endiguer cette progression, le gouvernement a annoncé de nouvelles restrictions. Mais depuis hier, c'est un peu la confusion. À Paris, zone classée rouge renforcée, les salles de sport et les gymnases seront fermées dès aujourd'hui, sauf pour les activités extrascolaires. Si vous souhaitez aller nager, les directives semblent un peu plus floues. Aurélia Valarier a contacté ce matin plusieurs accueils de piscine parisienne.
Est-ce que la piscine est bien ouverte?
Oui, pas de changement. J'en sais rien parce que avec les nouvelles lois, les nouveaux trucs, on ne sait pas trop encore.
On a eu des directives ce matin, on reste ouvert.
Il faudra rappeler lundi ou à chaque fois que vous veniez, mais lundi plus précisément, oui.
Pour l'instant, nous également, on est dans le flou là.
Oui, non, à Montpellier, même son de cloche.
Pour ce week-end, on est ouvert. Après, à partir de lundi, on attend les directives, on ne sait rien encore.
Vous n'avez pas encore eu d'informations?
Non.
Pas du préfet non plus?
Non.
Nous, c'est sûr qu'on ferme ce soir. Là, il y a une fermeture pour 14 jours.
C'est sur directive du préfet?
Oui, c'est ça, tout à fait.
On ne sait pas encore. On communiquera dès qu'on en saura un peu plus. Nous, on n'a pas encore de directive, on attend de voir.
Ce qui provoque cette confusion, c'est que le gouvernement donne des préconisations nationales, mais les applications sont locales et les préfets n'ont pas encore eu le temps de mettre en place toutes leurs dérogations. À Marseille, pas de grandes annonces suite à la fronde des patrons de bars et restaurants. Ils n'ont gagné que 24 heures de sursis. Ils devront tous fermer ce dimanche soir pour une durée indéterminée. Marseille qui détient le record du taux d'incidence de la maladie en France métropolitaine. Sachez que le ministre de la Santé, Olivier Véran, sera l'invité demain à partir de midi du grand jury RTL Le Figaro LCI. L'occasion de revenir en détail sur les nouvelles mesures annoncées et la colère de certaines professions. Dans un instant, la suite de l'actualité, on part à Rouen, un an après l'incendie de l'usine Lubrizol.
Le journal inattendu sur RTL. Marie Pierce, Ophélie Meunier. Le journal inattendu sur RTL. Avec Marie Pierce et Ophélie Meunier.
Un an après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, le gouvernement a annoncé un plan d'ampleur pour empêcher une nouvelle catastrophe. 450 millions d'euros qui devront renforcer la sécurité des sites industriels. Le sinistre de Lubrizol avait fait des dégâts environnementaux considérables. Près de 10 000 tonnes de produits chimiques sont parties en fumée et sont retombées sur 5 départements alentours. Un an après, l'enquête a du mal à avancer, Frédéric Veil.
Oui, le volet judiciaire risque d'être long, très long. L'enquête sur l'accident a été confié à 3 juges parisiens qui instruisent sur la mise en danger de la vie d'autrui, les blessures involontaires et la destruction involontaire par incendie. Un incendie qui a ravagé 15 000 mètres carrés d'entrepôt sur ce site Seveso que dirige Isabelle Striga, la directrice de Lubrizol.
L'enquête est toujours en cours et nous n'avons pas d'informations aujourd'hui sur l'origine et les causes de l'incendie. Nous avons reçu encore cet été des experts aux fins de l'enquête, mais je ne peux pas vous en dire plus à ce jour.
Ce que l'on sait, c'est qu'en février dernier, le pôle santé publique et environnementale du parquet de Paris a mis en examen Lubrizol pour déversement de substances nuisibles dans les eaux souterraines et exploitation non conforme d'une installation classée ayant porté une atteinte grave à la santé, la sécurité ou dégradé substantiellement la faune, la flore, la qualité de l'air du sol ou de l'eau. Des magistrats qui ont aussi noté l'absence du dispositif de détection incendie, là où justement le sinistre s'est déclaré.
Les précisions de Frédéric Veil pour RTL. Une manifestation est organisée aujourd'hui à 13h30 à Rouen avec des associations, des syndicats, des partis politiques et des victimes de l'incendie. Tous attendent les éléments de l'enquête et estiment que l'usine Lubrizol n'avait pas suffisamment protégé son site. La mort de Jacques Chirac, c'était il y a exactement un an. L'ancien chef d'État avait 86 ans et avait occupé la vie politique pendant un demi-siècle. En ce 26 septembre 2019, on assistait à une surenchère d'hommages. De nombreuses villes voulaient notamment célébrer la mémoire du président en baptisant une place ou une rue en son honneur. Mais un an plus tard, les municipalités qui ont parfois changé de bord après les dernières élections ont mis de nombreux projets dans les cartons. C'est le cas de Marseille ou Strasbourg. Une cinquantaine de lieux portent tout de même déjà le nom de Jacques Chirac en France. On part aux États-Unis. Le président américain doit confirmer officiellement ce soir le nom de la juge qui va remplacer Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême, icône progressiste décédée la semaine dernière. Pour lui succéder, la très conservatrice Amy Coney Barrett, connue pour des convictions religieuses traditionnalistes, une nomination cruciale et controversée à l'approche de l'élection présidentielle. D'ailleurs, le premier débat Donald Trump-Joe Biden, c'est dans 3 jours. Échéance très importante dans la course à la Maison Blanche. Marie Pierce, vous êtes franco-américaine, vous vivez entre la Floride et la France. Vous suivez de très près cette élection qui promet d'être historique. À quoi s'attendre pour ce premier débat? Est-ce qu'il peut être déjà décisif dans le résultat final?
Oui, je pense que c'est le premier débat, c'est la première impression. Le peuple américain, il connaît déjà Donald Trump, mais ça va être l'occasion pour découvrir l'autre candidat, Biden. Donc je pense que ça va être très important et comme je vous avais dit, c'est la première impression pour le peuple américain de Biden.
On parle États-Unis, puis on va parler sport et tennis, évidemment, avec vous dans un instant. D'abord, en foot, Lille a pris provisoirement la tête du championnat hier en s'imposant contre Nantes, 2-0. La suite de la 5e journée de Ligue 1, c'est tout à l'heure à 17h avec la rencontre Saint-Étienne-Rennes. À 21h, l'Olympique de Marseille affronte Metz. On refait le match à 18h30 avec Christian Olivier. Et puis RTL Foot, c'est à suivre de 20h à 23h sur notre antenne. Donc la grosse actualité sportive du week-end, c'est Roland-Garros. Les premiers tours commencent demain. On sera le 27 septembre. Initialement, Roland-Garros devait démarrer cette année le 24 mai. Ça n'était jamais arrivé. Et surtout, le contexte est anxiogène. Quelle est l'ambiance là, dans le stade?
Bah, ça va être très différent cette année, ouais. Ça c'est sûr. Comme vous avez dit, c'est la première fois qu'on va jouer si tard dans l'année. Donc il ne va pas faire aussi beau, on espère. On espère d'avoir du beau temps, mais bon, il va faire beaucoup plus frais.
Non mais blague à part, oui. Les températures fraîches, le vent, la pluie, oui. Tout ça, c'est pénalisant pour les joueurs. C'est compliqué de jouer dans des conditions météo fraîches.
Oui, c'est plus difficile, c'est sûr, quand on joue dehors, dans des conditions comme ça, quand il fait froid, quand il y a peu de pluie, il y a du vent.
Je crois savoir que les joueurs n'aiment pas ça. Hein.
Non, c'est pas agréable du tout. Et puis il faut rester chaud, il faut bien s'échauffer avant. Et puis voilà, c'est des conditions différentes. On joue sur terre battue, dehors les balles sont lourdes, donc ça va être différent cette année. C'est la première fois que les joueurs et les joueuses vont découvrir ces conditions-là.
Cette semaine, ça a été un peu le bazar. La jauge était à 5000 spectateurs finalement. Pour l'instant, c'est 1000 spectateurs dans tout le stade. Ça peut encore évoluer même en huis clos. Alors, il faut savoir qu'habituellement, ce sont quand même 35 000 personnes qui se baladent dans les allées de Roland-Garros. Comment les joueurs vivent-ils cette situation? Comment on vit un match quand on est pro, comme vous l'avez été, où il n'y a personne dans le public pour crier à chaque fin de point, pour vous encourager? Franchement, oui. Est-ce que ça fait une très grosse différence?
Énorme.
Et alors, quelle différence?
C'est très différent parce que quand on a l'habitude de jouer... sur des terrains comme le Philippe Châtrier avec 15 000 personnes, il y a de l'ambiance, le public qui applaudit, qui crie, surtout en tant que Français, on a le public derrière nous, ça nous aide énormément, ça nous donne de l'énergie, de la force, et là ça va être presque vide ou vide, on ne sait pas encore, on n'espère pas, mais il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas cette énergie qu'on prend du public, et c'est difficile, c'est très difficile quand on joue un bon coup, quand on fait un joli coup gagnant. Et puis il n'y a pas de bruit derrière, il n'y a pas d'applaudissement, il n'y a rien. Bah, ça fait très drôle, ça fait très bizarre.
On a les vôtres en tête. Hein, une balle entre les jambes, oui. qui fait un lob gagnant, par exemple. Ça, oui. Hurle dans le stade.
Voilà.
Ça, en ce moment, il va falloir s'en passer. C'est quand même,
oui.
Très bizarre, très pénalisant finalement, oui. Aussi pour les joueurs qui piochent beaucoup d'énergie dans ces cas-là.
Bien sûr. Surtout pour les Français et puis pour les grands joueurs qui ont l'habitude.
France Télévisions a annoncé qu'ils allaient mettre du son supplémentaire sur les matchs parce qu'ils se sont aperçus que regarder un match de tennis dans le silence, ce serait angoissant pour les téléspectateurs. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est bizarre.
On entend en fait là, voilà, des petites ambiances, comme si c'était un stade rempli, des cris plus ou moins forts en fonction des points, plus ou moins impressionnants. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je peux comprendre dans une sens qu'ils ont envie de mettre ça pour les téléspectateurs qui regardent. Mais dans une autre sens, j'ai envie de dire non. Parce que laisser les conditions comme ils sont. Et c'est comme ça pour les joueurs et les joueuses. Et ils vont être sur le terrain, il n'y aura pas de bruit, ça va être différent. Donc moi, j'aurais été plutôt pour que laisser les téléspectateurs regarder comme c'est vraiment,
comme
en direct, en vrai.
Comme les joueurs le vivent, voilà. Finalement. Vous, en tout cas, quand vous avez gagné en 2000, c'était devant un stade bondé. À quand une nouvelle victoire d'un Français à Roland-Garros? Restez avec nous, on en parle juste après une courte page de pub.
Le journal inattendu de Marie Pierce
avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu de Marie Pierce
avec Ophélie Meunier sur RTL.
C'était il y a 20 ans cette année, nous sommes le 10 juin 2000. Vous êtes en finale, Marie Pierce, à Roland-Garros face à l'Espagnole Conchita Martinez. Vous menez 6-2, 6-5. Vous vous apprêtez à servir et à ce moment-là, j'ai regardé les images, vous faites rebondir votre balle frénétiquement, énergiquement, avant de servir. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là?
Excellente question, Orphélie. En fait... J'ai essayé de me dire que c'était pas balle de match en fait.
Ah ouais. Jouer un point, ce point comme si c'était.
J'ai essayé de me dire dans ma tête, allez Marie, c'est un point comme un autre. Allez 30-15, vas-y, juste prends ton temps, respire, visualise là où tu vas servir ta première balle, et puis bah voilà.
Vous avez servi, Conchita Martinez a, je précise, a fait un retour, a fait une faute en fait, et vous avez gagné rapidement ce point, soulagé, très très soulagé.
Bah c'est sûr, il y a beaucoup d'émotions, il y a le cœur qui bat très vite, il y a la respiration aussi qui est moins profonde, donc on essaie de préparer ce point au mieux, et puis bah après quand c'est fini, c'est presque, on n'y croit pas.
Irréel.
Ça y est, je l'ai fait. Ouais. Je ne peux pas croire.
Il y a un temps aussi, pour réaliser ce qui se passe.
Et aussi, oui, je l'ai fait. Ouais. Et puis, je regarde mon box derrière, mon entraîneur, qui était mon frère à l'époque, et ma maman qui était là, et puis tout le monde, ma famille. Et c'était un moment magique.
On parle souvent du mental des joueurs dans le sport. À quel point, cette année-là, votre mental a joué dans votre victoire?
C'est... j'ai envie de dire presque le plus important. Bien sûr, on a besoin d'être en bonne santé, pas de blessures, etc. Mais après, le mental, ce qui compte le plus, quand on arrive à un grand chelem à la fin, comme ça, les grands matchs, avec la pression d'être française en jouant à Roland-Garros, etc. Il faut savoir gérer ses émotions, gérer ce stress. Et j'ai vraiment, je suis vraiment arrivée à cette Roland-Garros en 2000 dans un autre état d'esprit, une autre mentalité, ma foi, qui m'a complètement changée et m'a aidée aussi à enlever le stress que j'avais avant quand j'ai abordé cette Roland-Garros avec beaucoup d'attentes sur mes épaules. Et je suis arrivée cette année-là beaucoup plus en paix et relâché, détendu.
Beaucoup plus en paix, mais avec ce jeu, cette force qu'on vous connaît, vous avez un jeu plutôt agressif.
Oui.
Vous aviez un surnom quand vous étiez joueuse?
Non, mais il y a des commentaires qui disaient, je sais pas, Big Babe Tennis, des trucs comme ça aux États-Unis, mais je sais pas.
Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Si je vous dis boxe.
Ah, mais quelqu'un m'a dit Mike Tyson l'autre
mais oui,
jour.
Mike Tyson. Vous avez expliqué pourquoi, d'ailleurs, vous-même, dans cette interview à la BBC Radio 5, c'était en 2015, écoutez.
My father, training me and coaching
mon père qui m'a entraîné de mes 10 à mes 18 ans me faisait regarder beaucoup de boxe, principalement les matchs de Mike Tyson. Je peux tout vous dire sur les matchs de Mike Tyson. Pour mon père, c'était très important que je regarde des matchs de boxe. La boxe et le tennis sont très similaires. Quand vous entrez sur le court, c'est un contre un. Quand vous entrez sur un ring, c'est un contre un. C'est un combat et une seule personne en sort vainqueur.
Marie Pierce Tyson, c'est ça qui manque à nos joueurs et joueuses françaises pour gagner Roland.
Bah il faut une mentalité de battante. On sait que quand on va sur le terrain, c'est un contre un et voilà, il faut être agressif. Bon, mon jeu, c'était très puissant et très agressif. Je m'imposais et c'est ce que Mike Tyson faisait quand il entrait dans le ring. Bah, il s'imposait tout de suite, depuis le premier second dans le ring. Donc moi, c'était pareil. Depuis le premier balle, on va dire, que je frappais, j'essayais de prendre le contrôle du point et d'être agressif.
Aujourd'hui, il y en a un qui a l'air de monter sur le ring à chaque fois qu'il commence un match, c'est Rafael Nadal.
Oui.
Résultat, 12 victoires à son actif à Roland-Garros. Un petit pronostic pour cette année ?
Rafa,
encore.
Je pense Rafa tous les jours.
Alors je rappelle qu'il a gagné contre Dominic Thiem l'année dernière.
Oui.
Je pense que Thiem aura quand même très envie de prendre sa revanche.
Oui, bien sûr. Thiem en forme, en confiance. Ouais. Dernièrement, ça c'est sûr. Rafa, peut-être un petit peu moins en confiance que les années précédentes parce que voilà, à cause du Covid-19, pas pu jouer beaucoup de tournois avant et donc. Intéressant, mais moi je prends toujours Rafa à Roland-Garros.
Donc 13e voilà. Victoire de Rafael Nadal. Et côté fille
il y a Halep, Muguruza, Azarenka qui joue bien, qui rejoue très bien en ce moment. Il faut voir, c'est assez ouvert.
Barty n'est pas là.
Voilà, Osaka n'est pas là. Donc oui.
Et alors les Français, où ils seront dans tout ça?
Où ils sont?
Dites-nous.
Bah, en espérant que cette année, ils peuvent aller loin, comme chaque année, je l'espère en tout cas, pour eux. Donc, il faut voir comment ça va se passer cette année sans public. Pour certains, je pense que ça va être un moins parce qu'on utilise beaucoup l'énergie du public. Peut-être pour d'autres, je ne sais pas, on va voir, ça peut peut-être les aider parce qu'il n'y a pas de public, il y aura moins de pression, moins de stress à gérer. Donc, allons voir si ça peut aider certains pour aller plus loin.
Vous disiez tout à l'heure que jouer en tant que Française à Roland-Garros, ça ajoute une pression supplémentaire, ça ajoute de la force, mais c'est aussi plus difficile, en quelque sorte.
Oui, bien sûr, c'est normal, parce que c'est un des plus grands tournois de l'année, c'est le tournoi de Grand Chelem. En tant que Française, on a envie de gagner, on a envie de bien jouer, et puis on sent, en tout cas, moi je parle pour moi-même, j'ai toujours senti comme si l'attente du pays sur mes épaules. Tout le pays était content quand je gagnais mes matchs, et puis quand je perdais, bah, ils étaient déçus. Donc voilà, il y a beaucoup de pression, on a envie de... Déjà, pour nous-mêmes, on a envie de bien jouer, gagner, pour notre équipe, notre famille, et puis après pour notre pays, donc voilà, c'est normal.
Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité, votre reportage inattendu, on va parler sport et alimentation, mais juste avant, on va revivre un autre grand moment de votre carrière, c'est votre victoire à l'Open d'Australie en 95, écoutez.
Plus qu'un jeu et Marie pourra toucher ce grand bonheur de remporter un premier titre dans un tournoi du Grand Chelem. Le point le plus important de sa carrière. Super, ça y est, elle l'a fait. Marie Pierce remporte l'Open d'Australie.
Le journal inattendu sur RTL avec Marie Pierce et Ophélie Meunier.
Marie Pierce l'emporte. C'était bien ça aussi en 95, mais c'était pas encore Roland.
Oui.
C'était aussi fort que Roland ou pas ?
Non, c'était pas... complètement différent. C'est mon premier titre de Grand Chelem, c'est quand même extraordinaire et voilà, à 20 ans, premier Grand Chelem, après troisième mondial, j'ai atteint toutes mes buts pour l'année en un mois. Mais non, c'était vraiment un moment très fort dans ma carrière de gagner son premier titre de Grand Chelem, c'est sûr, mais il n'y a rien qui peut comparé à ce que j'ai vécu quand j'ai gagné Roland-Garros.
Allez, on continue à parler tennis avec vous, Marie-Pierre, ça tout de suite sur RTL. Il est 13h.
Journal inattendu de Marie Pierce.
13h, les titres de l'actualité, Ophélie Meunier.
Le principal suspect assume son acte au lendemain de l'attaque qui a eu lieu hier à Paris devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Il dit ne pas avoir supporté les republications des caricatures de Mahomet. Pour le ministre de l'Intérieur, il s'agit très certainement d'un acte terroriste. Il intervient en plein procès des attentats de janvier 2015. Deux journalistes ont été gravement blessés hier, mais leur vie n'est pas en danger. Le principal suspect est un homme pakistanais âgé de 18 ans. Sept personnes sont toujours en garde à vue. Avec près de 16 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures, l'épidémie de Covid-19 confirme sa progression en France. Le gouvernement a annoncé de nouvelles restrictions qui sont mises en place dès ce week-end. Salles de sport fermées dans les zones classées rouges renforcées. Gymnases fermées, sauf pour les activités périscolaires. Pour les piscines, c'est la confusion. Les établissements attendent de nouvelles directives des préfets. À Marseille, ville la plus touchée par le virus, bars et restaurants seront fermés dès demain soir, ce qui provoque une grande colère de la profession. Manifestation dans une demi-heure à Rouen, un an après l'incendie de l'usine Lubrizol. L'enquête peine à avancer, mais le gouvernement a annoncé hier un grand plan pour renforcer la sécurité des sites industriels en France. 450 millions d'euros pour mieux cloisonner les entrepôts, éviter la propagation des incendies et prévenir les risques. Le Premier ministre libanais renonce à former un nouveau gouvernement pour remplacer celui qui avait démissionné suite à la gigantesque explosion de cet été à Beyrouth. Elle a fait plus de 190 morts, 6500 blessés et ravagé des quartiers entiers de la capitale. Les partis politiques libanais s'étaient engagés à former un cabinet composé de ministres compétents et indépendants, mais n'ont pas réussi en raison des divergences entre les différentes communautés religieuses. Et puis un point sur la météo, c'est avec vous Marie Pierce, vous avez toutes les infos, je le sais.
Alors, le météo pour cet après-midi. Toujours un temps très agité, avec des pluies et du vent sur le nord et le nord-est, mais aussi de la Vendée au sud-ouest. Attention aux orages en soirée sur le Pays Basque. Partout ailleurs, ce serait mitigé avec une alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses. Le soleil restera en Bretagne, sur la Normandie et dans le sud-est, mais avec du vent. Les températures sont toujours très fraîches. Elles seront comprises cet après-midi entre 10 à Metz et 23 à Nice. Il fera 14 à Lille et 19 à Marseille, 15 à Paris et Bordeaux. Il va faire froid pour Roland-Garros.
C'est ce qu'on retient surtout de la météo. Merci Marie-Pierre. Vous gardez la main sur l'actualité puisque l'on va découvrir votre reportage inattendu. On va parler nourriture. Marie-Pierre, vous êtes végétalienne. D'abord...
Alors, je précise, je suis végétalienne, mais on va dire à 99%. J'ai été pendant un an et demi, et après un petit moment, je ne me sentais pas à 100%. Il y avait un petit truc qui manquait, donc avec mon médecin, on a fait les analyses, on l'a vu. Donc, ce que je fais, c'est que je mange une fois par jour, le soir, un bout de soit poisson ou poulet ou dinde, ou l'agneau, un truc. Mais sinon, à part ça, je suis végétalienne.
Est-ce que c'était un choix lié au sport ou pas du tout?
Alors, au début, non. J'ai vu des documentaires et j'ai vu comment on traite les animaux et c'est horrible. Et je ne pouvais pas toucher quelque chose qui avait pour les animaux. Donc, j'ai essayé, mais pour ma santé, mon bien-être, le sport, etc., mon corps, j'en ai besoin d'un petit peu. Mais j'ai vu et j'ai remarqué que, en fait, personnellement, on n'a pas besoin de manger autant de produits animaux, en fait.
Il y a un élan vegan parmi les sportifs de haut niveau, Lewis Hamilton, Novak Djokovic, Venus et Serena Williams, mais aussi de nombreux joueurs de foot, de basket. L'alimentation dans le sport, c'est un sujet qui vous intéresse. C'est votre reportage inattendu. Il est signé Isabelle Langer.
Vous vous souvenez de cette musique en fin de ce générique, celui de Popeye, ce marin costaud qui puisait sa force dans les épinards. Il était bien en avance sur son époque. Aujourd'hui, effectivement, de plus en plus de sportifs de haut niveau prônent un régime végétarien ou végétalien pour performer. Les championnes de tennis, Venus et Serena Williams, le skieur Bode Miller ou encore le pilote de Formule 1, Lewis Hamilton.
Je me suis jamais senti aussi bien physiquement dans ma vie. Incroyablement clean, en bonne santé. Je ne m'imagine pas revenir en arrière. Quand je vois mes amis qui mangent certaines choses que je mangeais aussi, je me dis, ça me rend malade ce qu'on peut parfois ingurgiter.
L'ancien champion de culturisme Arnold Schwarzenegger confie d'ailleurs que depuis qu'il ne consomme plus de viande, son taux de cholestérol a chuté, qu'à presque 70 ans, il se sent mieux que jamais dans son corps. Pour autant, conjuguer régime sans protéines animales et sport de haut niveau semble bien compliqué pour Mathieu Jouys, cet ancien athlète de haut niveau, aujourd'hui diététicien nutritionniste de l'équipe de France d'athlétisme, détaché à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Pétrière émettent en effet quelques réserves.
Ça paraît difficilement conciliable parce que, qu'on le veuille ou non, nous appartenons au règne animal. Et il est évident que trouver le même ratio protéinique, c'est forcément très compliqué. Donc non seulement on va devoir la plupart du temps avoir une supplémentation alimentaire avec des compléments donc nutritionnels qui auront pour objectif d'apporter les acides aminés essentiels qu'on ne trouvera pas ou en très faible quantité dans les sources d'origine végétale, également des supplémentations en fer et en calcium de par la carence en produits laitiers.
D'ailleurs Marie, Mathieu Jouys a une question pour vous.
Marie, étiez-vous déjà végétalienne à l'occasion de votre carrière tennistique et si oui, utilisiez-vous des compléments alimentaires afin de pallier aux carences de ce type d'alimentation?
Excellente question. Donc j'étais pas végane pendant ma carrière de tennis, mais c'est vrai que aujourd'hui je me sens beaucoup mieux et ma santé est vraiment au top. Donc je pense que si je savais, je l'aurais fait. En fait, ce que je fais aujourd'hui pendant ma carrière, et je pense que j'aurais moins de blessures aussi parce que j'aurais eu moins d'inflammation dans mon corps.
Alors moi j'ai une question quand même, c'est comment vraiment mesurer les résultats? On l'a entendu, Lewis Hamilton dit qu'il ne s'était jamais aussi bien senti dans son corps. Mais comment vraiment on peut vraiment mesurer les résultats, en tout cas les performances au niveau professionnel? C'est plus de l'ordre du ressenti.
Oui, c'est tout à fait ressenti parce qu'en tant qu'athlète professionnel, on est très sensible, on ressent les choses, on connaît notre corps très bien. Donc, voilà, les douleurs. Premier moment, j'ai remarqué ça. J'ai moins mal partout, on va dire. Et même les anciennes blessures, si je ne mange pas correctement, je sens que j'ai des douleurs un peu dans mon corps. Donc, ça enlève l'inflammation qui est hyper important pour la santé en général, pour tout le monde. Mm-hmm. Et on se sent beaucoup mieux, on est moins lourd, on a plus d'énergie, on dort mieux, on se réveille avec de l'énergie, parce qu'avant je me réveillais, j'étais fatiguée, j'avais envie de dormir encore, mais j'avais bien dormi entre guillemets la nuit, mais on a beaucoup plus d'énergie. Et puis après on a les analyses qu'on peut faire, et puis on voit exactement notre santé s'améliore. En fait,
je sais que vous avez quand même un péché mignon. Voilà un petit indice.
C'est quoi?
Chers citoyens du monde, moi, Willy Wonka, ai décidé de permettre à 5 enfants de visiter ma chocolaterie. 5 tickets d'or ont été cachés dans le papier d'emballage de 5 tablettes ordinaires de chocolat Wonka.
Vous vous êtes vendue toute seule.
Ah
parce
là,
que
là, là, c'est excellent. Oui, c'est vrai.
C'est grave. Vous m'avez demandé de passer un extrait de Charlie et la chocolaterie.
Oui, j'adore ce film. C'est mon film préféré. Parce que si je peux nager dans une rivière dans de une chocolat, rivière de chocolat. Ça serait génial. Non, mais il n'y a pas de vie sans chocolat, c'est vrai. Chocolat noir, hein, je mange. Hein.
C'est rassurant, on va manger sain, mais on va continuer à manger du chocolat. Dans un instant, on reçoit votre invité, Marie Pierce, quelqu'un de très très proche de vous. C'est votre mère, Yannick Pierce.
Ah,
à tout de suite,
oui,
sur RTL.
Le journal inattendu de Marie Pierce.
Avec Ophélie Meunier sur RTL.
Marie Pierce, vous avez, je ne sais pas si vous avez mangé du chocolat pendant la
semaine. Non, mais j'ai faim, j'aimerais bien.
Vous avez choisi de recevoir votre mère dans cette émission. Elle est avec nous depuis la Floride. Bonjour Yannick Pierce, bienvenue.
Bonjour à vous.
Marie Pierce,
allô maman.
Salut ma fille.
Ça va?
Ça va bien, oui.
Merci. Hein. Oui, ça va.
Est-ce que vous avez bien dormi,
ah, oui,
demande maman.
Bah, voilà, j'ai bien dormi maman, merci. Et toi?
Moi, oui.
Parce qu'il est tôt pour toi, là.
Il est 7h, je suis réveillée depuis un moment.
Oui, il est du matin, ma maman.
Ouais. Alors, Marie-Pierce, pourquoi déjà vous avez souhaité recevoir votre mère, puisque c'est vous qui choisissez votre invité dans,
oui,
cette émission.
Oui.
Pourquoi vous avez souhaité recevoir Yannick Pierce aujourd'hui?
Pourquoi pas?
Ah oui, tout à fait.
Déjà. Pourquoi pas? Bah non, c'est ma maman. Et puis, j'ai pensé à elle. J'ai demandé si elle était d'accord de le faire. Et je pense que ça peut être... C'est différent, ça change, en fait.
Je crois qu'elle est très curieuse de savoir la raison pour laquelle vous l'avez sollicitée.
Ah bon? pour qu'elle puisse, je ne sais pas, je peux peut-être raconter des histoires ou...
Ah, des histoires, alors justement.
Je ne sais pas.
Justement.
Elle me connaît le mieux, c'est elle qui me connaît le mieux.
On l'a dit tout à l'heure, il y a 20 ans exactement, vous avez gagné Roland-Garros. Alors 20 ans, ça se fête.
Oui.
Je crois savoir qu'il y a eu une petite fête d'organiser en Floride pour les 20 ans de votre victoire. Racontez-moi, qu'est-ce que vous avez organisé et comment ça s'est passé? Je pense que c'est croustillant.
Oui. C'est ma maman qui a organisé ça.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah voilà, c'est maman qui raconte, peut-être si elle veut.
Alors allez-y Yannick.
C'était une petite soirée que j'ai organisée. J'ai dit à Marie que c'était simplement un dîner de famille pour fêter ça. Et en fait, j'ai invité les personnes qui sont le plus proches d'elle et qui ont suivi sa carrière depuis toute petite. Toutes les femmes étaient habillées avec une robe de Marie.
Donc toutes les femmes étaient habillées. C'était une surprise pour vous?
Oui,
Marie-Pierce, celle qu'on connaît, la petite robe noire, le bandeau là.
Oui, c'est impressionnant, maman. Elle est très très forte parce qu'en fait, c'était le période de Roland Garros et on devait fêter mes 20 ans. Et on était tous confinés. J'étais en Floride et ma maman a dit on va faire un petit dîner à la maison pour célébrer ça entre familles. Et dit ok, d'accord, donc j'arrive, j'ai mon frère, ma nièce, mon neveu, etc. Et ma maman, et puis je rentre dans la maison, et puis là je vois c'est décoré avec plein de choses de Roland Garros, des posters, des photos, Et puis il y avait plein de gens et que je m'attendais pas. Et puis les femmes, ils étaient tous habillés avec des robes que, avec des robes
que
j'ai jouées.
Vous avez joué.
Exactement. Ouais. Et puis
plein
bandana,
de petites Maries dans la victorieuse dans la maison.
C'était vraiment incroyable. Et non, elle a fait très fort.
Alors, il y a des enfants qui comptent beaucoup dans votre vie.
Oui.
Marie-Pierre, ce sont vos neveux et nièces.
Oui.
Vous avez été leur prof de sport pendant le confinement. Racontez-nous.
Oui, j'allais tous les jours chez ma maman parce que ma maman faisait l'école à la maison pour eux. Et donc, j'arrivais là-bas et puis c'était le moment de sport. Donc, prof de sport Tati, on m'appelle Tati, donc coach Tati. Et puis, on faisait des sorties en vélo, on jouait au mini-tennis devant la maison.
Yannick Pierce, comment elle est comme prof de sport, Marie Pierce? Coach Tati, elle est sévère, elle est exigeante? C'est dur de l'avoir comme prof de sport?
Elle est exigeante, mais très gentille en même temps. Elle est très douce, mais il faut faire comme il faut. Et si on ne fait pas comme il faut, elle vous le démontre. Alors, je faisais devant eux, pour faire les jumping jacks, c'est comme ça, les push-ups, c'est comme ça.
Je leur montre le technique.
Très exigeante. Alors, vous avez une passion commune, toutes les deux, c'est la nourriture. On en a parlé juste avant avec Marie-Pierce.
Ah là là.
Votre plus grand plaisir à toutes les deux, c'est de vous retrouver pour manger ensemble.
Ma maman, elle a toujours fait la cuisine. J'ai grandi comme ça, elle faisait toujours la cuisine à la maison et... ma maman, elle cuisine super bien et quand j'étais là-bas en Floride pour le confinement, elle faisait le dîner presque tous les soirs, donc j'allais chez ma maman pour dîner et tout ce qu'elle fait est bon, donc c'est un moment qu'on partage ensemble aussi et j'ai appris à cuisiner et c'est maman qui m'a appris à cuisiner.
Merci Yannick Pierce, qu'est-ce que vous préparez pour ce midi-là?
Qu'est-ce que je prépare pour
ce midi-là, qu'est-ce que vous préparez à manger de bon, histoire de faire saliver Marie depuis la France et depuis notre studio à RTL?
Le midi, elle a des légumes. Mmh. Elle a aussi... Attends, qu'est-ce que c'est déjà? J'ai oublié un petit peu.
C'est du quinoa.
Ah, légumes, quinoa.
Les lentilles.
Il y a du quinoa, il faut des grains, il faut des starch veggies et des veggies. Donc, il pourrait y avoir des brocolis au four avec des asperges au four, du quinoa et des lentilles.
Donc, ça, c'est le repas qu'elle vous ferait.
Ça, c'est à
votre
midi.
Mère si vous étiez là.
Oui, et ma maman aussi, elle fait un pizza sans gluten, vegan, à tomber par terre.
Et du chocolat en dessert.
Oui, et elle fait des desserts aussi, mais incroyable. Voilà.
Merci beaucoup, Yannick Pierce. Et je crois savoir que vous venez en France très bientôt. Alors,
on
vous retrouvera
à
Roland-Garros.
Ce que je voulais dire, c'est que la pizza que l'on fait, on l'a fait avec Marie, et c'est la pizza qui est dans le livre de cuisine de la WTA.
Oui, la WTA, ils ont fait un cookbook pour soulever des fonds pour des charités.
Donc, une recette saine et à suivre pour les sportifs et non sportifs aussi, d'ailleurs.
Exactement.
On sait que c'est bon.
Merci,
c'est
maman.
Bon
gros
merci
bisous, je t'aime.
Merci, ma fille. Moi aussi, je t'aime très, très fort. Bisous, à bientôt.
Bisous.
C'était pas une surprise parce que c'est vous qui aviez demandé à recevoir votre maman. Mais dans un instant, vous allez découvrir votre petite surprise et vous laisserez aussi un message sur le répondeur du journal inattendu. À tout de suite sur RTL.
Okay.
Le journal inattendu de Marie Pierce
avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu de Marie Pierce
avec Ophélie Meunier sur RTL.
On vit en ce moment un Roland-Garros historique, complètement chamboulé. On a tout de même une petite surprise pour vous. C'est un joueur de tennis français qui est devenu professionnel la même année que vous, en 89. Il a été 17e joueur mondial. Ça vient ou pas? Non? Bonjour Fabrice Santoro.
Bonjour Ophélie, bonjour Marie.
Fab, comment ça va?
Merci. Ça va Marie?
Merci bien et toi?
Très bien, ça fait plaisir de t'entendre.
Ah ça fait plaisir, quelle jolie surprise, merci beaucoup, c'est gentil.
Comment vas-tu?
Bien, ça va.
Tous les deux, vous n'avez connu que des Roland-Garros estivaux, avec des stades bondés, des supporters qui crient dans les tribunes. Fabrice, vous suivez de très près un Roland-Garros, puisque vous commentez la quinzaine pour la télé anglaise. Comment vous le vivez, vous, ce Roland-Garros complètement bouleversé?
Avant même qu'il ne commence, on sait déjà que ça sera un Roland-Garros différent de tout ce que l'on a pu connaître.
Avec Marie, on n'est plus sur les cours, mais on garde forcément en mémoire des souvenirs inoubliables de d'échanges, de fusions avec le public, des holas et tous ces moments-là. Cette année, ben, on en sera privé.
Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution des mesures au jour le jour ? Est-ce que la fédération a raison de se plaindre de n'avoir que 1000 spectateurs par jour ? Ou finalement, bah, tout le monde est logé à la même enseigne et c'est comme ça ?
Et je pense que la décision du gouvernement est juste au regard de la situation globale en France ou même à l'international. On peut s'estimer déjà heureux d'avoir un Roland-Garros cette année. Le gouvernement, je pense, n'a pas été loin d'annuler carrément l'édition 2020. Donc c'est extrêmement triste pour les joueurs de devoir de jouer devant des stades vides, mais on peut voir le verre à moitié plein et se dire qu'on a de la chance que cette édition ait lieu.
Vous toujours positif, Fabrice.
Toujours,
c'est ça que
Marie.
J'aime chez toi.
vous craignez-vous, Marie, que Roland n'aille même là, alors ça va commencer demain, mais qu'on n'aille pas, que Roland n'aille pas jusqu'au bout cette année, ce serait possible, ça ?
On espère que non. Premièrement, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, dans le monde qu'on vit avec les choses, ce qui se passe, il n'y a rien d'impossible. Mais on espère en tout cas que ça se passe bien et bah, que tout le monde reste en bonne santé, en sécurité et que ça se joue jusqu'à la fin.
On sait que France Télévisions va rajouter du son hein, sur les matchs pour mettre quand même un petit peu d'ambiance alors que les stades seront vides. On en parlait tout à l'heure avec Marie-Pierce. Fabrice, Marie-Pierce pense que en fait, il faudrait que les téléspectateurs vivent les matchs comme les joueurs le vivent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça ou pas ?
Ça serait bien. J'ai regardé un tout petit peu l'US Open et j'ai trouvé l'épreuve extrêmement triste. Donc du son, des images, effectivement, pourraient un peu animer les matchs. Moi, j'aurais comme mission, en plus de la télévision anglaise ITV, j'aurais commission donc d'interviewer les joueurs sur les principaux cours après leur match et on a pu obtenir de la direction du tournoi de la TP de la WTA le droit d'interviewer les joueurs sans masque avec une distance d'une dizaine de mètres environ.
Ah oui.
Le joueur sera complètement il n'y aura personne autour de lui à 10 mètres à la ronde, mais le rôle de moi en tant qu'intervieweur, c'est d'aller chercher des émotions chez un joueur.
Mais alors
les émotions
Fabrice,
avec un masque
comment on fait pour aller chercher des émotions, alors certes sans masque, mais à 10 mètres du joueur, compliqué quand même.
C'est très difficile, on s'est posé la question de savoir s'il valait mieux être à 3 mètres masqué ou à 10 mètres non masqué, et personnellement moi je préfère être à 10 mètres non masqué parce que étant donné que les stades seront quasiment vides, on va surtout effectuer cette mission pour le téléspectateur. Nous, on sera dans un coin de l'écran et les téléspectateurs pourront voir le joueur, et un joueur sera beaucoup plus expressif sans masque.
Étonnant quand même, hein,
oui.
Bouleversant tout ça.
Oui.
Un pronostic pour cette année, Fabrice Santoro. Marie a dit Nadal tout à l'heure pour une 13e victoire. C'est possible, mais d'une certaine manière, on espère peut-être une petite surprise cette année.
Rien n'est impossible pour Rafa et franchement, je serais très content qu'il s'impose une 13e fois. Mais je pense que les conditions de jeu seront bien plus adaptées au jeu de Novak Djokovic, qui d'ailleurs pour le moment est invaincu. Hein. Voilà, en tout cas, le seul match qu'il a perdu, c'est face à lui, c'est contre lui-même. Novak Djokovic me semble avoir un léger avantage sur Rafa, mais voilà, c'est extrêmement mince.
Et nos joueurs français, jusqu'où ils vont aller cette année ?
Aïe.
Oh là !
Marie, cette question est pour toi.
Ah non, j'ai déjà répondu, moi. C'est à toi maintenant.
Bah, sur le papier, rien ne laisse penser qu'on aura des grandes performances françaises. Après, j'espère me tromper, j'espère qu'il y aura des surprises, mais nos joueurs ne sont pas vraiment en forme. La sortie du confinement et le retour à la compétition a été peu convaincant. On a des joueurs blessés, des joueurs absents. On sait que Gaël, par exemple, peut très bien jouer s'il
Gaël,
prend
fils,
confiance.
Ouais.
Voilà, au bout de, avec 2-3 victoires, mais il n'a pas gagné un match depuis le mois de février. Il n'en a certes joué que 2, mais c'est autant de défaites. Non, c'est pas une bonne année. Et puis,
bon, allez, on reste positif quand même. On reste positif comme vous l'êtes. Merci, Fabrice Santoro. On vous souhaite une bonne quinzaine. Merci d'avoir été avec nous.
Merci, Fabrice.
Merci à vous. Et bonne chance à vous, Ophélie, hein, parce que vous entrez en
lice le 7 octobre, c'est ça?
Ouais, un petit match pour les non-professionnels. Allez, merci beaucoup. À très bientôt. C'est le moment pour vous, Marie Pierce, de laisser un message à une personne de votre choix sur le répondeur du journal Inattendu. À qui avez-vous choisi de laisser ce message?
Président Mandela.
Alors, c'est parti dans un instant.
Vous êtes bien sur le répondeur du journal Inattendu. Votre message après le bip sonore.
Bonjour, Président Mandela, c'est Marie Pierce. J'ai enfin l'occasion aujourd'hui de vous laisser un message vocal. J'en profite pour vous dire que de nombreuses fois j'ai pensé à votre engagement, votre passion et à l'œuvre que vous avez accomplie. D'ailleurs, encore aujourd'hui, vous seriez un exemple pour nous tous. Malheureusement, trop de problèmes autour du racisme sont d'actualité, notamment aux États-Unis. J'espère sincèrement que, comme vous, nous trouverons le courage de s'écouter et de rassembler plutôt que de s'affronter. En 1995, vous avez utilisé le sport comme vecteur de paix. Sachez aujourd'hui encore, il est un outil fantastique pour la promotion de la solidarité, de l'éducation et de l'inclusion. Si vous avez choisi le rugby, j'ai choisi le tennis. Et heureusement, de nombreux sportifs sont engagés sur le terrain, convaincus que le sport pourrait nous aider à mieux vivre ensemble. Je termine en vous remerciant pour cet héritage que vous nous avez transmis. Mes prières vous accompagnent. Au revoir, Président.
Je suis sûre que de là où il est, il entend ce message. Merci, Marie Pierce, d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter cette émission en replay sur notre nouvelle application RTL. Tout de suite, c'est Confidentiel, présenté par Jean-Alphonse Richard, consacré à Jacques Mayol. La semaine prochaine, je reçois Julie Gaillet. Très bon week-end à tous. Très bon Roland, Marie Pierce. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine.